Et je suis ravie d'animer cette conférence autour de la REP et de la mise en œuvre de la REP. La REP a des ambitions très importantes au niveau du recyclage et ça passera forcément, comme toute chose nouvelle, toute innovation, par la qualité de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif qui est prévu dans la loi AGEC. Et donc, l'objectif de cette performance est de partager en fait, avec des acteurs clés de la mise en œuvre de cette REP, les facteurs clés de succès qui nous feront atteindre les objectifs qui ont été définis. Donc, je vous présente tout d'abord Amélie Vaz. Donc, oui.
Bonjour. Amélie Vaz, responsable des études et de la prospective à l'Institut national de l'économie circulaire. Je vous présenterai un petit peu plus après ce que fait l'INEC.
Ensuite, Lucille Charbonnier-Cotelin.
Bonjour, je suis la directrice développement durable et RSE des activités plâtre et isolation de Saint-Gobain en France.
Mathieu Hiblot.
Bonjour, je suis directeur technique, innovation et relations institutionnelles pour l'éco-organisme Ecominéraux qui va traiter des produits de construction de la filière minérale.
Donc nous avons perdu Olivier Deves qui malheureusement est malade avec le Covid et par contre bon voilà on a préparé ensemble donc on saura porter sa voix. Alors la REP s'applique à des flux triés, on sait que le tri aujourd'hui sur les chantiers est encore perfectible. Pourquoi est-ce important de trier à la source et comment on peut changer ces pratiques de tri et peut-être aussi de déconstruction, puisqu'on parle de déconstruction sélective de plus en plus. Lucie, vous avez développé depuis quelque temps un support opérationnel en fait, aux acteurs travaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire pourquoi c'est important ?
Oui, alors chez Placo, ça fait plus de 14 ans maintenant qu'on recycle les plaques de plâtre issues des déchets du BTP. Donc, en effet, on a développé une filière ex nihilo. Il n'y avait pas grand-chose quand on a commencé en 2008. Et on s'est appuyé sur un réseau de collecteurs qui, aujourd'hui, sont des collecteurs agréés Placo. Ils représentent à peu près 180 collecteurs. Ces collecteurs, on a travaillé avec eux pendant des années pour leur apprendre à sélectionner les matériaux. Et puis, on a une équipe qui sillonne la France pour aller sur les chantiers, apprendre sur les chantiers à déconstruire de façon correcte, sans mélanger les matériaux, les entreposer au sec, et de façon à ce qu'ils puissent rapporter les matériaux chez les collecteurs dans un état aussi propre que possible pour que les collecteurs n'aient qu'un léger surtri à faire et qu'ensuite cette matière puisse être transformée en matière secondaire pour être réinjectée sur des sites industriels de grande envergure comme les nôtres. Ça marche très bien. L'année dernière, sur Placo, on a recyclé plus de 67 000 tonnes de plâtre sur les 120 qui ont été recyclées en France. Et fort de cette expérience, on a renouvelé l'exercice avec la laine de verre, puisque en 2018, on a lancé la première filière de recyclage de laine de verre en France, qui est encore naissante parce qu'on a d'autres problématiques sur la laine de verre, notamment le transport, parce que si vous ne la compressez pas, vous transportez beaucoup d'air. Mais c'est le même principe, une laine de verre, si elle est triée dès l'origine sur le chantier et qu'elle n'est pas mélangée, c'est quelque chose qu'on peut recycler extrêmement facilement et pour lesquels il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de chute au recyclage. Pour le plâtre, pour vous donner une idée, les plaques de plâtre qui sont triées dès l'origine sur les chantiers, on est capable d'en extraire 97% qui va être réintégré dans un processus industriel. Et puis, si ça marche bien, dans 40 ans, cette plaque de plâtre qui est fabriquée à partir des déchets de plaques de plâtre redeviendra un déchet qui sera réintégré dans une nouvelle plaque de plâtre. Donc la matière, elle a une valeur énorme, elle existe, on la conserve. Mais on peut la conserver que si elle n'est pas mélangée et si elle n'est pas souillée.
Alors, Amélie, l'INEC porte aussi des sujets d'acculturation, hein, puisque c'est aussi, on a besoin de pédagogie. Est-ce que vous pouvez nous en faire part et nous expliquer aussi pourquoi c'est important qu'on ait ces actions-là ?
Oui, bien sûr. Alors effectivement, l'INEC, ce n'est pas une entreprise du secteur du BTP. En fait, on est une association, loi 1901, qui regroupe des industriels du secteur du BTP. entre autres, et des territoires. Et c'est vrai qu'on a un véritable sujet, nous, qu'on porte, qui est l'acculturation, la sensibilisation, la formation, pour qu'en fait, toutes les pratiques courantes du BTP, aujourd'hui, se transforment pour intégrer davantage les piliers de l'économie circulaire. Donc, on a porté plusieurs opérations pilotes à ce titre, et je vais vous en parler d'une qu'on a conduite entre 2019 et 2021 dans la région sud avec le cabinet Altereo, et 10 maîtres d'ouvrage publics pour justement les accompagner sur les opérations qu'ils conduisaient. Donc c'était à la fois une construction d'une voie de tramway, une déconstruction d'une école, une construction d'un gymnase, enfin voilà, des opérations classiques du BTP. Et donc sur ces deux années-là, on les a vraiment accompagnés. Donc, phase d'audit, des groupes de travail collectifs, des entretiens individuels pour vraiment... qu'ils comprennent ce que recouvre l'économie circulaire et dans une vision non restrictive, puisque eux, la vision qu'ils portaient jusqu'alors, c'était économie circulaire, on va traiter rapidement des déchets, mais on ne s'occupe pas forcément d'autres piliers comme l'éco-conception, l'approvisionnement, etc. Donc il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de l'acculturation et puis également du décryptage de la réglementation. La REP va venir, mais elle s'inscrit dans tout un cadre réglementaire en transformation. Il y a le diagnostic ressources aussi qui va arriver. Donc forcément, c'est beaucoup de choses à changer. Et nous, notre rôle à l'INEC, c'est vraiment d'accompagner ce changement en décryptant la réglementation, en l'anticipant aussi et en faisant des propositions aux législateurs qui soient les plus adaptées possibles pour les acteurs du terrain.
Donc Mathieu, vous représentez Ecomineiro qui cible principalement les déchets inertes. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi pourquoi le tri ou la déconstruction sélective, c'est important aussi pour les déchets inertes, comme ça a été évoqué tout à l'heure sur le plâtre et sur...
Oui, exactement. L'importance est la même. Nous représentons en effet des fabricants de produits d'origine minérale, que ce soit des produits en béton, prêts à l'emploi ou préfabriqués, les matériaux qui permettent de le fabriquer, les sables et graviers, le ciment, tous les produits en terre cuite ou encore la pierre de construction. Et l'ensemble de ces produits ont cette particularité de générer des déchets inertes. Ces déchets, depuis déjà plusieurs années, on a développé donc des techniques de recyclage et de valorisation matière, ce qui nous permet aujourd'hui d'afficher même un taux de performance excellent. On est plus à plus de 76% de valorisation matière à l'échelle du secteur du bâtiment. Et pour ça, il est important vraiment de ne pas mélanger les déchets sur les chantiers. Alors, sur les chantiers de construction, on a peu de quantité de déchets. On a des produits qui sont prêts à l'emploi ou qui sont à l'unité et qui, si dès lors qu'il y a un surplus, ils peuvent être utilisés sur d'autres chantiers. Donc, ce qui va surtout nous intéresser, c'est les déchets de réhabilitation ou de démolition. Et c'est là où il est vraiment important d'avoir un tri ou en tout cas surtout de ne pas avoir un mélange sur ces chantiers pour évacuer vraiment ces flux séparés dès lors qu'ils sont déconstruits de manière sélective. Parce que ça renforce cette capacité à les recycler dans différents usages. On va fabriquer du béton avec du béton de démolition. On utilisera aussi ces matériaux en technique routière. Et dès lors qu'on a de la présence de morceaux de plastique, de plâtre, où on n'est pas du tout sur un déchet inerte, il peut y avoir en fait une réaction dans les formules dans lesquelles on va les utiliser. Et ça peut avoir des dommages sur les ouvrages ultérieurs. Donc c'est là où il y a vraiment cette importance pour avoir une forte valeur environnementale en termes de gestion et surtout donc de recyclage, à ne pas mélanger les déchets sur ces chantiers à la fois de réhabilitation et de démolition.
Je peux juste rajouter une chose. En fait, il y a aussi dans le démontage sélectif qui permet de ne pas mélanger, il y a une autre chose qu'on prépare et dont on ne se rend pas compte, c'est complètement inconscient, mais en fait... Dans quelques temps, on va être capable de faire du réemploi. Et si on sait détecter sur les chantiers correctement et démonter correctement ces matériaux, on va, au-delà de faciliter le recyclage, on va même pouvoir un jour les réemployer correctement. Et donc, toute cette acculturation au changement qu'on fait aujourd'hui, elle prépare l'arrivée de ces vagues de réemploi qui, clairement, vont venir d'ici quelques mois, quelques années, dès qu'on aura des matériaux qu'on pourra facilement démonter parce qu'ils auront été prévus pour, et donc on pourra réemployer. Mais on saura déjà faire. Ouais, et donc, c'est très important. Ouais.
On a pu ce matin, avec une keynote avec Martha de Sidrac, évoquer en fait l'importance des outils réglementaires comme le diagnostic PEMD qui permet en fait d'identifier assez tôt les flux. Et d'ailleurs, les flux, peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, derrière, ça veut dire industrialiser les filières, ça veut effectivement apprendre, structurer les filières pour que ça devienne en fait quelque chose d'économique. Est-ce que vous pouvez en fait nous en parler? Quelle est l'action en fait d'Ecominéraux et sur ces sujets-là, Mathieu?
Alors, oui, vous évoquez le diagnostic de gestion des déchets au stade de la démolition, vraiment d'informer les entreprises de travaux qui interviendront pour avoir cette connaissance des gisements. Nécessairement, on va les accompagner pour développer de plus en plus ce diagnostic. Alors, il existe depuis les années de 2010. Il a évolué avec la loi AGEC. Il y a renforcé les compétences, notamment des diagnostiqueurs, pour avoir des diagnostics les plus justes possibles. Et grâce à cette connaissance, en effet, ça va permettre aussi de mieux identifier les filières existantes à proximité de ces chantiers. Et pour nous, c'est primordial. En tant qu'éco-organisme, on va mettre à disposition un maillage territorial de points de reprise avec des standards de collecte séparée qui vont être fixés. On les connaît déjà pour beaucoup, puisque cette pratique existe déjà depuis longtemps pour ce qui est des déchets inertes. Mais cette meilleure connaissance et ce fléchage aidera à trouver ces solutions de proximité qui en permettront un recyclage ou une valorisation matière. Donc on sera totalement dans cette sensibilisation sur l'ensemble de la chaîne de valeur, mais dès le point de départ, l'origine, c'est dans la conception des travaux, dans la réflexion que le maître d'ouvrage doit avoir avec l'ensemble des parties qui interviennent auprès de lui.
Alors, sur ce sujet de structurer les filières et pour dynamiser en fait et accélérer en fait cette économie circulaire, Lucille, en tant qu'industrielle, vous aussi, vous avez des actions d'accompagnement de structuration des filières?
Oui, tout à fait. En fait, si on veut pouvoir récupérer une très bonne matière, en fait, chez Placo et Isover, on est celui qui, par Placo et Isover Recycling, permet de capter la matière et on est celui qui va la manger en tant qu'exutoire. Et donc, il faut structurer le milieu. Et donc, on a tout intérêt à accompagner nos réseaux de collecteurs et les chantiers et les maîtrises d'ouvrage à préparer tout ça. Et en fait, ce qu'on fait depuis des années, c'est pas d'arriver à une industrialisation du process, c'est pas ça. Par contre, c'est à une hyper-professionnalisation de la filière. Et ça, c'est clé, c'est-à-dire qu'on peut être pas un très gros acteur, mais être hyper-professionnel et hyper-régulier dans son travail, et donc collecter correctement, préparer correctement et rapporter une matière qui systématiquement rentre dans les cahiers des charges. Et ça, c'est clé. Et donc, en fait, aujourd'hui, si je mets bout à bout nos deux filières, on a plus de 220-230 collecteurs agréés. Mais dessous, si on les segmente, il y en a un pourcentage... Enfin, on doit avoir 70 collecteurs, en gros, qui sont des collecteurs hyper professionnels et qui ramènent régulièrement un tonnage régulier d'excellente qualité et sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, c'est pas forcément des quantités majeures, mais c'est hyper professionnel, donc c'est clé. On fait monter en compétence toute la filière avec nous et on crée une filière d'expertise qui sert tout le monde en fait. Et ça, c'est très important. Et on se rend compte que finalement aussi, les collecteurs qui marchent le mieux avec nous, ce sont ceux qui sont aussi capables d'apporter d'autres types de matières à d'autres industriels qui ne font pas de plâtre et pas de laine de verre, mais qui font autre chose. Donc en fait, en 14 ans, ces gens-là, ils ont grandi énormément avec nous et ce sont vraiment aujourd'hui des piliers de la filière et ce sont ceux qui demain, clairement, serviront l'entrée en vigueur de la REP parce qu'ils sont prêts.
Alors, on parle effectivement beaucoup de changements et de temps qui est nécessaire pour ça. Alors, l'INEC, pour le coup, c'est vous. Enfin, vous êtes impliqué, engagé dans cette conduite du changement et cet accompagnement du changement. Sur ce sujet spécifique des filières, est-ce que vous avez aussi une action?
On travaille pour ce coup-là avec beaucoup les collectivités territoriales qui, en fait, ont un rôle hyper important pour justement... définir quels sont les points de reprise et établir ce maillage. il doit être le plus fin possible. Et pour ce faire, on a quelques acteurs comme la Métropole du Grand Paris qui ont développé des analyses de métabolisme urbain pour quantifier, qualifier les flux qui transitent par le territoire, les importations, les exportations, mais également tous les flux qui sont transformés. Ils sont évidemment rendus compte que sur ce territoire-là, c'est les flux de BTP qui étaient les plus importants et qu'il y avait vraiment un enjeu à les revaloriser sur le territoire et donc à identifier des points de collecte et établir un maillage territorial pour cette économie circulaire. Toutefois, le territoire, il est très dense. Il est très urbanisé et c'est plutôt difficile de capter du foncier disponible pour ces opérations-là, pour avoir ces points de collecte et de reprise. Et du coup, ils ont, dans cette analyse-là, pu établir des points de reprise et de collecte qui seraient temporaires. Ils ont aussi pu définir quels étaient les chantiers en cours pour voir si on ne pouvait pas faire du réemploi in situ. Et il y a vraiment un rôle important de ces collectivités pour définir la conjecture économique et ça, donner toutes ces informations-là aux éco-organismes. Pour avoir un petit peu plus d'informations sur ça, il y a la Métropole du Grand Paris qui sera présente cet après-midi à 16h30 pour vous parler de cette analyse de métabolisme.
Très bien. Alors, on a évoqué l'amélioration du tri, le développement de la déconstruction sélective, on a parlé de structuration de filières. En fait, la notion de temps, effectivement, pour ces changements, pour gérer ces changements, elle est clé. Sauf que là, le temps, on ne l'a plus trop, donc il est sujet d'accélération. La REP, pour vous, c'est un vecteur d'accélération. Quelles actions, en fait, comment la REP va pouvoir accompagner ce besoin d'accélération dans un changement qui est quand même très, très important.
Pour les filières existantes, c'est sûr que la REP, elle va amener un coup de boost évident. C'est-à-dire que déjà, le fait qu'il y ait une reprise sans frais des déchets séparés fait que fatalement, ces fameux déchets, ils vont arriver plus vite. Et donc, c'est une incitation très forte, évidemment, au non-mélange, on va dire ça comme ça, au non-mélange sur chantier. Ça, c'est sûr. Et pour nous, c'est une excellente nouvelle parce que c'est une manne qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher avec nos petits bras de placo Isover Recycling. Ça va arriver et ça, c'est excellent. Et puis, on pense aussi que ça arrivera du coup de meilleure qualité parce que ce sera séparé dès l'origine. Sinon, il n'y aura pas le sans frais. Donc, c'est très important que ça se mette en route. Et puis, la REP, peut-être que finalement, elle va permettre aussi de fonctionner sur un pied d'égalité. Parce qu'il y a ceux qui font beaucoup et puis il y a ceux qui ne font pas grand-chose. Et donc, finalement, on va tous fonctionner en tant qu'industriels sur un pied d'égalité. Et ceux qui, pour une fois, font un peu plus, peut-être que ce sera une valeur ajoutée qu'aujourd'hui, on ne voyait que moyennement. Et voilà. Puis on pense aussi qu'on va pouvoir avoir beaucoup plus de matière de bien meilleure qualité à réintégrer et qu'on va pouvoir se concentrer sur d'autres sujets qui sont plus forcément une évangélisation, ce sera fait, mais on va pouvoir se concentrer sur de la montée en compétences, de la meilleure qualité, de l'éco-conception plus poussée, de l'éco-conception sur pas seulement nos produits, mais la structure dans laquelle ils sont intégrés, sur la ville durable. On va pouvoir enfin dégager un peu de temps pour passer à des choses qui vont nous permettre d'aller un cran plus loin et qui seront un peu plus visionnaires. Et ça va aussi certainement permettre de faire une différence entre tous les exutoires potentiels. Il y a des exutoires pour les déchets qui vont permettre d'avoir une deuxième, troisième, quatrième vie à un matériau. Et il y a des exutoires qui vont faire un recyclage. Et après, il n'y aura plus rien. Et donc ça, je pense que la REP va aussi nous permettre de faire à terme, pas tout de suite, mais certainement dans un second temps, un tri de ces exutoires. Et l'objectif, c'est vraiment de valoriser au mieux cette matière pour qu'elle puisse avoir autant de vie que possible et pas juste un recyclage. Si on fait un recyclage, on a échoué.
D'accord. Donc, en fait, cette REP, c'est un jalon important sur cette montagne à gravir qui est devant
nous. Elle est belle.
Alors, Amélie, Mathieu, est-ce que vous voulez compléter cette vision, cette montagne et puis l'importance de la REP sur...
Oui, volontiers. C'est vrai que la REP va stimuler cette transition. Alors, il faut qu'on on la regarde aussi à différents niveaux. Il y a déjà des filières extrêmement structurées aujourd'hui, d'autres qui ont besoin d'être boostées, réussir à massifier surtout la reprise de ces déchets pour les orienter vers des usines de traitement. Donc, c'est là on va être sur ce maillage, de regarder aujourd'hui comment on est vraiment structuré, d'avoir une complémentarité aussi avec les collectivités locales, puisqu'on a déjà aussi des déchetteries pour les particuliers, voire aussi pour certains artisans. Mais avec des capacités qui viennent à être saturées, puisqu'il y a vraiment, et c'est une très bonne chose à regarder de plus en plus pour faire du réemploi, mais ça demande aussi avoir des capacités pour récupérer ces flux, les mettre à disposition des acteurs qui le permettent. Et donc on est toujours à chercher cet espace proche de chacun des chantiers pour permettre ces voies de réemploi, de recyclage ou de valorisation matière. Puisque on parle de ces performances environnementales, mais on a aussi celle, et avec un enjeu très important, c'est du transport. Il faut réussir à réduire aussi ces distances pour avoir moins de camions sur les routes, parce qu'on a aussi ces enjeux-là. Et donc, c'est toujours dans cette solution de proximité, comment on apporte ce service à chacun des détenteurs pour ensuite orienter ces flux vers les industriels qui savent recycler, valoriser cette matière. Donc c'est vraiment un des axes très importants de la REP pour les éco-organismes. Et puis il y en a un autre où on va s'intéresser davantage à l'ouvrage, comment on le construit et comment il est éco-conçu. Puisque aujourd'hui, si on reste sous le prisme de la REP bâtiment, c'est 46 millions de tonnes à peu près de déchets. Mais ce sont des déchets du passé. C'est des ouvrages qui sont construits il y a 50 ans, 100 ans, voire au-delà, avec des techniques assez anciennes. Et on n'a pas toujours pensé forcément à avoir de l'espace, de la démontabilité aussi sur ces ouvrages. Donc il s'agit de travailler à cette éco-conception, à la fois à l'échelle de l'ouvrage, pour en permettre donc une meilleure démontabilité, en tout cas une meilleure évacuation des déchets qui seront générés. Et puis ça se travaille aussi à l'échelle des produits et des matériaux qui sont eux-mêmes aussi éco-conçus. Donc les éco-organismes sont vraiment dans ces démarches collectives à ces différents niveaux, à la fois auprès des producteurs, des fabricants, pour proposer toujours des solutions constructives qui répondent à ces enjeux qui sont devant nous. Et puis, pour ce qui est après de cette gestion en fin de vie, eh bien, d'améliorer encore les solutions de collecte, de transport et de traitement des déchets qui sont à la fois issus de la construction, de la réhabilitation, mais aussi de la démolition.
Donc après, effectivement, à partir de cette REP, il y a peut-être la connaissance des territoires et le rôle clé des architectes. Amélie, vous voulez...
Oui, complètement. Là, les territoires, je l'ai un petit peu dit, sont vraiment centraux pour faciliter les synergies interchantiers. Et sur le travail de cette logistique, il y a sûrement des innovations à trouver. On a comme membre à l'INEC un éco-organisme qui voulait se positionner sur les déchets du bois et qui avait pour projet du coup de développer des scieries mobiles pour aller au plus proche des chantiers et pouvoir revaloriser les matériaux dans un scope plutôt faible, enfin restreint, réduit. Donc voilà, la REP va mener aussi à beaucoup d'innovations en ce sens.
D'accord. Mais il faut qu'elle reste simple.
Oui, c'est la clé, effectivement, la
c'est
simplicité.
C'est la clé. Si on amène trop de complexité, oui, c'est fini. Oui. Et je pense que les éco-organismes travaillent énormément à intégrer la complexité chez eux pour que dehors, ce soit simple. Oui. Et que sur les chantiers, ce soit simple. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu majeur. Hein. Oui. C'est simplifier oui, pour que ça se fasse naturellement.
Très bien, je vous remercie beaucoup. Alors, pour le mot de la fin, si vous deviez vous exprimer chacun sur le vecteur clé de succès pour la mise en œuvre de cette REP.
Je commence. Peut-être que, du point de vue de l'INEC, aujourd'hui, on a conscience qu'il y a un fort besoin de visibilité sur la REP. Et donc, notre travail, c'est vraiment de décrypter au mieux toute la réglementation qui paraît et de participer aux discussions au niveau des ministères pour porter des propositions. Donc voilà, je pense que là, le mot de la fin sur cette REP, ce serait de la visibilité.
Lucille,
sur un plan un peu plus large, toujours considérer que la matière, elle a une valeur et toujours essayer de garder cette valeur intrinsèque de la matière sans la dénaturer, sans la détruire, et toujours en pensant au coup d'après.
Très bien. Mathieu ?
Ce sera vraiment une concertation aussi locale. Pour nous, la règle d'or dans notre filière, c'est le bon matériau au bon endroit et aussi pour le bon usage. Donc ça enveloppe vraiment tout ce prisme qui est nécessaire à la bonne conduite des opérations.
D'accord. Ben moi, je retiens de vos interventions des clés comme la professionnalisation, la montée en compétences, la simplification qui est vecteur effectivement d'accélération, et puis que finalement cette REP c'est en fait un moyen pour aller plus loin, et qu'on a vraiment tous intérêt à ce qu'elle soit vraiment pleine de succès et qu'elle atteigne ses objectifs. Alors on finit avec un peu d'avance, donc si on peut profiter de ce temps là pour des questions réponses si vous voulez, ou si vous voulez profiter aussi pour ajouter quelque chose. Alors on n'a pas de micro.
Oui, bonjour, Jean-Philippe Vacher. C'est une question pour vous tous. Comment vous allez aborder la gestion de l'empreinte carbone avec tous ces flux au niveau ? Parce que, comme vous dites, il faut faire des choix, bien sûr. Le premier, c'est de récupérer et d'organiser tout cela avec le local, c'est important. Mais il y a le corollaire, et ça peut être un dilemme. Comment vous allez gérer cela ? C'est pas une question piège, hein, en toute honnêteté.
Non, c'est pas une question piège, c'est une question récurrente. Mais c'est avec mes congénères du plâtre au SNIP, on a fait une étude justement là-dessus, comparative entre la fin de vie d'une plaque de plâtre quand elle est enfouie à côté du chantier où elle est déconstruite et la fin de vie d'une plaque de plâtre quand elle est recyclée. Justement parce que très souvent on nous dit ouais, mais votre machin il est transporté à l'aller, au retour, enfin bref. Le résultat, donc c'est une étude comparative dans les règles de l'art, donc vérifiée avec des cabinets qui ont qui ont fait l'étude. Et on arrive à moins 44% d'émissions de CO2 quand la plaque est recyclée versus quand la plaque est enfouie. Je pense que l'exercice est fait. Après, le vrai enjeu de tout ça, c'est ça ne va pas être le transport parce que c'est une cacahuète. C'est pas ça. Le vrai enjeu, c'est qu'en effet, on ait les bons matériaux au bon endroit et donc que tout ça, ça marche de façon territoriale. Il est évident qu'une plaque de plâtre qui est démontée à Monaco ou à Nice, elle va pas aller être recyclée à Strasbourg. C'est une hérésie. Donc, il y a des maillages aujourd'hui qui existent. Il y a des exutoires un peu partout pour le plâtre notamment, qui permettent justement d'éviter ce genre de choses. Entre réintégrateurs de matière, il y a une bonne entente, c'est-à-dire que quand il y a une usine sur le trajet, bah, ils s'arrêtent à l'usine. C'est une usine Placo, c'est une usine Etex, c'est une usine autre. Il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Et après, quand il n'y a pas assez d'exutoires, parce que ça arrive, pour la laine de verre, par exemple, on est les seuls et on est à Orange, c'est compliqué, eh bien, on investit. Donc aujourd'hui, nous, on est en train de développer un deuxième exutoire de laine de verre à Angers pour contrebalancer le déséquilibre géographique et permettre d'avoir un deuxième exutoire pour les laines de verre en France. Et puis, au passage, c'est un proto-industriel qui permettra d'en développer d'autres ailleurs sur le territoire. Mais donc voilà, il y a un vrai enjeu. Le maillage territorial de collecte, il est important. Puis il y a le maillage territorial des exutoires qui, sur des filières bien mûr existe déjà et donc il n'y a pas de sujet. Sur des filières en construction, bah, ça se fera au fur et à mesure. Je pense qu'il faut quand même faire attention à ne pas opposer ou ne pas vouloir... Enfin, un déchet, il n'est pas forcément décarboné. Voilà. Donc, mais il y a deux enjeux. Aujourd'hui, la planète, elle nous alerte sur deux choses. Il y a le changement climatique et le carbone. Et il y a comment je gère mes ressources. Et les déchets sont des ressources et des matières, et ces matières, elles existent. Donc, soit je décide que je détruis la matière et je la fous dans un trou pour X ou Y raison, soit je l'utilise, cette matière. Et peut-être qu'elle va avoir il y aura un léger impact carbone à sa réutilisation, mais il faut l'utiliser, la matière. Sinon, on gaspille, on gâche. Et je ne pense pas que ce soit vraiment l'avenir ni de notre planète, ni pour nos enfants et nos petits-enfants, que de gâcher toutes ces matières existantes.
Une autre question ? Oui.
Donc demain, concrètement, sur chantier, comment est-ce qu'on organisera la collecte ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudra plusieurs bennes ? Est-ce qu'il en faudra une seule ou le tri s'effectuera plus tard ? Voilà, de manière pragmatique.
Peut-être un premier élément de réponse. Sur cette collecte à plusieurs bennes, alors la réglementation fixe un principe de collecte 7 flux à minimum. Déjà sur les chantiers, en termes de tri ou pour éviter les mélanges, on doit avoir, dès que c'est possible, un flux pour les fractions minérales, un autre pour le verre, le plâtre, le bois, le carton. Ça, c'est dans l'organisation vraiment du chantier. Les éco-organismes s'inscrivent totalement par rapport à cette modalité, mais ils vont aussi aller plus loin pour offrir vraiment des solutions de reprise de tout ce qui peut être trié. Et c'est là où on rentre à nouveau dans ce maillage vraiment territorial et local, d'avoir ces solutions. Alors, c'est soit des solutions de reprise directement sur les chantiers ou d'appoint volontaire. Et ça, aujourd'hui, c'est parmi les expertises qu'on est en train d'engager. Chacun des candidats éco-organismes et puis à l'échelle aussi future d'un organisme coordonnateur d'apporter cette solution globale. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces enjeux. Dès lors qu'un flux est déjà en fait trié, qu'on puisse le conserver et trier jusqu'à son recyclage ou sa valorisation.
Et il y a plein de métiers qui se créent. Et aujourd'hui, on voit apparaître, au-delà des collecteurs habituels, des gens qui sont capables, notamment en région parisienne, parce qu'on a un vrai problème de place sur les chantiers, de venir chercher un big bag. Et donc, il y a aujourd'hui en France, je crois qu'il y a une petite dizaine d'acteurs qui sont capables, sur demande, de venir chercher un big bag. Ils vous amènent le big bag, ils viennent le rechercher 2 heures après. Et donc, ils sont extrêmement agiles. Et ils sont très forts parce que justement, par leur petite quantité et leur agilité, ils sont capables de récolter des matières pures. Bien plus pures qu'une grosse benne qui reste pendant je ne sais pas combien de temps sur le chantier et où finalement, il y a un ouvrier qui finit par passer et balancer le seau de peinture. Donc, il y a des vrais métiers qui sont en train de se créer. Il y en a vraiment une petite dizaine en France et ça marche très, très bien. Et en région parisienne et sur la métropole de Lyon, il y en a beaucoup. Et c'est très efficace.
Mais je confirme effectivement que le sujet de la supply chain, il y a beaucoup d'innovations en fait, qui sont en train d'émerger avec des startups ou des groupes pour traiter ce sujet-là et essayer d'apporter des solutions opérationnelles au chantier dans la simplicité. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure.
Le réemploi a été évoqué rapidement. Quelle est la place du réemploi pour vous dans la REP, concrètement en termes de flux ? Est-ce que ça va être des acteurs différents qui vont être en amont des points de collecte ? Géré par les éco-organismes, est-ce que ce sera en aval ? Et par ailleurs, autre question, rôle des fabricants à long terme, même si c'est des visions à 20 ans, sur le réemploi de leurs propres matériaux ?
Sur le réemploi, il y a deux choses. Il y a le réemploi aujourd'hui des matériaux qui n'ont juste jamais été conçus pour ça. Et donc là, il y a un enjeu majeur. C'est-à-dire que ce qu'on démonte aujourd'hui, sa capacité de réemployabilité, elle n'est pas hyper élevée. Et ça dépend ce qu'on démonte. Il y a des matériaux, c'est plutôt facile. Les faux plafonds, c'est jouable. Voilà. Quand on commence à parler de plaques de plâtre, quand on commence à parler d'isolants qui ont 40-50 ans, on se pose la question clairement du réemploi qui peut avoir plusieurs travers. C'est la même chose sur les fenêtres. Les fenêtres, il y a 40 ans, c'est un simple vitrage. Est-ce qu'on a vraiment envie de réemployer un simple vitrage dans le bâtiment d'aujourd'hui ? Je ne suis pas sûre que ça corresponde tout à fait à la RE 2020. Donc voilà, sur le réemploi, il y a ça. Donc à court terme, c'est pas évident. C'est beaucoup de matériaux. Mais il y a un enjeu et dans la REP, il y a un objectif de réemploi à l'horizon 2028. Par contre, pour nous, industriels, l'enjeu majeur, c'est comment les produits que je mets aujourd'hui sur le marché sont réemployables, démontables et réemployables tout à l'heure. Et donc ça, c'est ce sur quoi on travaille en éco-conception. On a déjà un certain nombre de solutions qui, d'ailleurs, vont être mises en œuvre pour les Jeux Olympiques, par exemple, puisqu'il y a une phase d'héritage derrière très rapide. Donc il y a pas mal de choses qu'on teste. Et clairement, la modularité, la démontabilité et le réemploi, c'est l'enjeu de demain. Et ça, ça va monter en puissance, évidemment, en éco-conception.
OK. Une dernière question ?
Merci, Gérard Coeffer, la CLCV, Association de consommateurs. En parallélisme, ce qui se fait déjà dans les biens de consommation, comme l'électroménager, avec Murphy, qui réemploie du matériel pas de 10 ans, mais qui ont un an, deux ans, et qui peuvent revivre. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de doubles vitrages qui sont démontés, alors plus en rénovation qu'en dans le neuf, dans les grands chantiers. Mais il y a les bailleurs sociaux qui ont déjà fait des travaux qui vont démonter. Et là, est-ce qu'il y a un partenariat envisageable avec des structures qui existent comme Emmaüs, qui sont déjà spécialisées dans des domaines ? Mais je pense qu'il y a beaucoup d'emplois à créer avec des structures qui ont de l'expérience du réemploi.
En fait, des structures sur le réemploi, en effet, aujourd'hui, il y en a un certain nombre. Qui marchent très bien. Ce sont des startups qui sont pas loin de sortir du format startup, je pense, en termes de taille. Donc, il y en a beaucoup qui travaillent sur plein de sujets. Il y a du réemploi sur l'électricité, il y a du réemploi sur tout ce qui est sanitaire, chauffage, il y a du réemploi sur tout ce qui est plancher, faux plancher. Voilà. Donc il y a énormément de choses qui marchent. Le réemploi, ce n'est pas quelque chose qui vient de tomber du ciel. Les matériaux anciens, ça existe depuis la nuit des temps. La seule chose, c'est que aujourd'hui, on a un enjeu important à maintenir la performance des bâtiments. Et c'est clé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, avec les enjeux d'aujourd'hui, de construire des bâtiments dont la performance environnementale, sous l'angle efficacité énergétique, n'est pas assurée. Donc le réemploi doit vraiment se faire dans cette optique-là. Et après, ça n'empêche pas qu'un excellent double vitrage puisse être réemployé. Et puis un simple vitrage, ça peut devenir une serre. Hein. Ça marche très bien. La seule chose, c'est qu'il y a un enjeu majeur à comprendre quel est le matériau et quel sera son bon emploi et son bon usage pour, un, ne pas le dénaturer et, deux, ne pas créer de contre-emploi, finalement, versus les enjeux environnementaux et climatiques qu'on a sur le bâti en France.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Sur cette question, en effet, il y a besoin, en fait, de surtout ces matériaux récupérés pour le réemploi, d'avoir une évaluation de ceci vis-à-vis de ses caractéristiques intrinsèques, s'il les a toujours comme il les a eues à l'origine, pour pouvoir répondre, en fait, aux normes d'aujourd'hui. Donc ça demande aussi encore à développer des outils normatifs de contrôle et d'essai pour pouvoir après répondre à ces exigences dans les différents ouvrages.
Puis il y a l'enjeu des assurances, oui. De la performance. Enfin, quand on met aujourd'hui un produit neuf sur le marché, derrière, il y a une DOP, une déclaration de performance qui garantit un certain nombre de choses. Il y a, si nécessaire, une fiche de sécurité pour savoir ce qu'il y a dedans. Et, voilà. Et donc, sur les matériaux de réemploi, comment on fonctionne ? Surtout que le matériau, en l'occurrence, on ne sait pas de quand il date. On ne sait pas ce qu'il a vécu dans le bâtiment. Pas, il y a eu une infiltration d'eau ou pas, on n'en sait rien. Donc il y a énormément d'enjeux. Et c'est pour ça que je pense que le réemploi demain sera facilité parce qu'en éco-conception, on aura pensé à ça. Alors que le réemploi des matériaux qu'on démonte aujourd'hui est un vrai, c'est un beau challenge. C'est un vrai enjeu et je pense qu'il y a énormément de choses qui se font. Hein. En France, on a un maillage de start-up qui est excellent. Et qui ont énormément de savoir-faire. Et je pense qu'on peut se reposer dessus pour que ça puisse avancer et que ça avance de concert.
et ces vecteurs d'emploi parce que et d'insertion, puisque il y a beaucoup aussi d'ESS qui en fait investissent ce sujet du pré-traitement, on va dire, de réemploi.
Tout à fait. De façon générale, l'accélération de tous ces sujets via la REP et autres, c'est vecteur d'emploi. On va créer de nouveaux emplois à tous les niveaux. Mmh. Et ça c'est assez génial.
Ok. Bah écoutez, merci beaucoup pour vos interventions, vos apports en fait à ce sujet de la REP.